Radio Campus, il est midi.
Yalla yalla.
Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment, vraiment des manières que j'adore.
Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio.
Bonjour à tous, chacun, chacune. Bienvenue dans une nouvelle édition des points sur les i.
Point barre.
Collectif Davids sur Radio Campus Lille. Et aujourd'hui présent Simon.
Salut.
Christophe.
Salut.
Nordine.
Salut.
Et Baptiste Manette.
Et puis bien aujourd'hui on a donc Nordine avec nous dans les studios de Radio Campus et qui va nous parler de son expérience au centre de rétention de Wassel. Alors avant de parler du centre de rétention de Wassel, alors je rappelle que les centres de rétention ce sont des prisons pour étrangers dans lesquelles on peut passer aujourd'hui 3 mois depuis la loi asile et immigration. Avant c'était 45 jours, ça a été doublé, soit de 45 à 90 jours depuis le début 2019, et une extension de la durée de détention qui a amené beaucoup de luttes depuis le début 2019 dans les différents centres de rétention français, notamment à Wassel où dès janvier 2019, puis en avril, il y avait eu grève de la faim de la part des prisonniers pour protester contre les conditions de détention. Mais avant de continuer sur Wassel, je voudrais dire quelques mots de Vincennes, centre de rétention de Vincennes, puisqu'il y a eu, c'était donc mardi de la semaine dernière, un incendie qui a détruit tout un bâtiment de ce centre de rétention. Incendie donc qui a été déclenché pour protester contre les violences policières de la part des flics à l'intérieur du centre. Alors il faut savoir que Vincennes et Wassel, ces deux centres de rétention qui ont une particularité en commun, c'est qu'ils sont collés à une école de police. Une école de police où sont formés donc les stagiaires de la police nationale. À Vincennes, c'est une école de police cynophile, donc dressage de chiens pendant leur formation. C'est situé dans un bois de manière assez isolée. Et donc mardi, alors non pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant, j'ai dit une bêtise, un des bâtiments est devenu inutilisable suite donc à un incendie. Il s'agit du bâtiment 2A. La lutte avait commencé de la part des prisonniers quelques jours plus tôt, le samedi, par une grève de la faim, et cette grève avait entraîné une répression extrêmement violente de la part des policiers à l'intérieur. le 4 février au soir, donc mardi, des prisonniers ont téléphoné, notamment des amis de l'Assemblée anti-centre de rétention de Paris, et également de l'Envolée, émission de radio anticarcérale tous les vendredis sur Radio Paris, fréquence Paris pluriel. Pour informer donc que le bâtiment 2A était donc en feu. Les personnes qui étaient dans ces bâtiments ont été encerclées par la police anti-émeute dans la cour. Il y a eu plusieurs violences, tabassage, passage à tabac. Les prisonniers sont restés plusieurs heures sous la pluie, dans le froid, pendant que l'incendie était maîtrisé et qu'il y avait des fouilles réalisées dans l'ensemble des bâtiments. Une trentaine de personnes du centre de rétention donc, ont été emmenées dans un commissariat, les chambres étant devenues inutilisables. Au départ, pas de garde à vue, mais suite à un début d'enquête, trois personnes depuis auraient été placées en garde à vue et on ne sait toujours pas, en tout cas je ne sais pas, si elles ont déjà été déférées devant le juge. À savoir que la répression ne s'est évidemment pas arrêtée là. Elle a continué avec des transferts, avec des personnes envoyées, donc, comme je viens de le dire, en garde à vue. Et puis, pour acheter la paix sociale, comme c'est très souvent le cas dans les centres de rétention, et particulièrement quand il y a des mouvements comme ça de résistance de la part des prisonniers, les flics bourrent les prisonniers de médicaments pour les abrutir, la camisole psychique pour calmer les esprits. Et acheter la paix sociale.
Camisole chimique.
Ouais. Camisole chimique, ouais. Alors, le bâtiment, il est complètement inutilisable, le bâtiment qui a flambé à Vincennes. Et s'il y a bien un avantage quand même à ce genre de choses, c'est qu'il y a eu entre 11 et 17 personnes, je ne sais pas le chiffre précisément, mais au moins 11 personnes qui, suite à cet incendie, faute de place dans le centre de rétention et dans d'autres centres, ont été libérées. Et 11 minimum, peut-être 17 personnes. Donc, faut voir, ça permet de montrer aussi que c'est seule la lutte des prisonniers à l'intérieur de ces centres de rétention qui permet ce type de mesures de libération qui, sans cela, sont complètement prises dans la machine judiciaire qui est une véritable industrie pour expulser et enfermer les personnes sans papier. Alors, soutien aux prisonniers de Vincennes et de tous les centres de rétention de manière générale, que ce soit à Vincennes ou à Oissel, à celles et ceux qui sont en lutte, on peut marquer son soutien en appelant dans les cabines qui sont dans les centres de rétention et qui permettent d'échanger avec les personnes à l'intérieur. Elles ont besoin de soutien, ne serait-ce que verbal. Donc, téléphoner pour les numéros de cabine se trouvent assez facilement sur Internet et ne surtout pas hésiter à téléphoner pour simplement prendre des nouvelles, apporter son soutien. Ça fait toujours chaud au cœur et c'est très important pour les personnes à l'intérieur. Suite à l'incendie du centre de rétention de Vincennes, je précise qu'il y a eu trois rassemblements devant le centre de rétention à Vincennes pour soutenir les prisonniers, pour crier à travers les barrières et les grilles pour manifester son soutien. Il y a également eu le 9 février un rassemblement à Barbès, donc à Paris. Et puis maintenant, pour parler très rapidement d'Oissel avant de donner la parole à Nordine, le 22 janvier dernier, il y a eu un début de grève de la faim, dénonçant les violences policières, des provocations quotidiennes, des intimidations, l'utilisation de l'isolement comme punition pour la moindre incartade au règlement ou le fait simplement de répondre à un policier qui vous a insulté. Isolement utilisé pour battre les personnes qui sont scotchées, casquées et ensuite souvent frappées. D'ailleurs, ce qui avait déclenché la grève de la faim le 22 janvier, c'était un détenu qui était revenu de l'isolement avec des bleus partout sur le corps. Il y a également la complicité de l'association qui est présente au sein du centre de rétention qui a été dénoncée par les prisonniers. Cette association, France Terre d'Asile, ayant ses locaux juste à côté de l'isolement, il ne pouvait donc ignorer les traitements infligés aux prisonniers à l'intérieur de cet isolement et conditions et violences policières qu'ils n'ont jamais dénoncées dans aucun communiqué, se limitant purement à accompagner les personnes dans la défense de leurs droits, sachant que même à ce niveau-là, nombre de prisonniers se plaignaient de leur incapacité, de leur manque d'investissement dans cette mission qui est pourtant la leur. Et s'il n'y a pas de soutien à l'extérieur pour mettre un peu la pression, en gros, même sur cette simple question d'accompagnement juridique, ils font mal leur boulot, quoi. Je vous lis rapidement les très courts 5e et 6e communiqués. Donc, le 5e communiqué a été publié le 6 février pour annoncer la reprise de la grève de la faim qui avait été interrompue. Et qui donc dénonçait eh bien, les mauvaises conditions de rétention et les traitements inhumains à l'intérieur du centre de rétention. Quelques jours plus tard, un nouveau communiqué pour dire que était interrompue cette grève de la faim, mais que la lutte continuait par d'autres moyens. Ils essayent de s'organiser donc, et de se mobiliser autour d'un, et de faire émerger donc, une parole collective de la part des prisonniers au sein de ce centre de rétention de Wassel, afin de définir aussi d'autres actions pour dénoncer les mauvais traitements dont ils sont les victimes. On revendique la fin des violences policières, de la xénophobie et de leur racisme. Nous réclamons à ce que les policiers qui nous provoquent sans arrêt soient affectés ailleurs dans d'autres services. Ils ne sont pas propriétaires du lieu, c'est-à-dire du centre de rétention, bien qu'ils se comportent de la sorte. Alors, salut Nordine.
Salut.
Après cette un peu longue introduction qui permet de parler un petit peu des luttes qu'il y a dans les centres de rétention. Toi, tu étais donc dans celui de Wassel dont je viens de parler.
Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'étais dans le centre de rétention de Wassel. J'ai fait 77 jours là-bas. Et j'ai vu que toutes ces situations que vous venez de dire là. Et en fait, il faut qu'on parle de ça tous les jours. Parce que là-bas, les gens ils souffrent de ça tous les jours. C'est la quotidien de retenir là-bas. Il faut qu'on en parle. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la France Certa d'asile. Ils font pas bien leur boulot parce que, comme vous avez dit, leur bureau c'est juste à côté le bureau de la chambre de l'isolement. Ils entendent toujours les cris de les retenues, les cris, les tabasses, tout ça, mais ils peuvent rien faire en fait. Moi, je dis que les provocations de la part de la police, c'est moi j'ai pas compris pourquoi ils comportent comme ça les policiers envers les retenues. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est du quotidien, tous les jours. Moi, je parle de moi. J'ai fait 3 fois l'isolement dans 77 jours. C'était pour rien. C'était pour juste, on a fait 1 fois, 2 fois, la greffe à la fin, parce que les policiers ne comportent pas bien avec nous. Ils viennent le matin, ils commencent à taper à les portes, et avec des matraques, ils nous insultent. Il y a toujours d'outrage, il y a tout ça dans le centre. Il y a même côté femme, il se passe comme ça avec moi, parce que j'ai un contact avec un retenu, il est dans le centre de Wassel, je parle avec elle souvent. Elle dit tous les jours, elle entend des cris de racisme contre elle, et elle dit toujours qu'elle souffre en fait. Comme à chaque fois qu'elle parle avec moi, elle parle en pleurant. Ce que je dis, moi, je dis toujours, même j'ai dit ça à la juge à la cour d'appel, je dis que les policiers, quand ils font tabasse les gens à l'isolement, ils coupent la caméra. Ils coupent la caméra comme ça, et même les députés européens qui viennent dans le centre, les journalistes, même ils ne peuvent pas rien voir. À chaque fois, même moi j'étais dans ce cas-là. J'étais tabassé, j'étais scotché, ils m'ont mis un casque, ils m'ont insulté plusieurs fois.
On peut peut-être préciser qu'à la suite de la grève, la première fois que vous avez fait grève de la faim, il y a eu la visite d'un député européen, c'est ça?
Ouais, il a visité. Ce qu'ils disent, de centre rétention, il n'y a pas d'activité dans le centre, il n'y a rien. Ils disent qu'il y a la salle, la télé, il y a des fauteuils, il n'y a pas ça. En fait, il y a juste une baby-foot pourrée dans le centre de rétention de Wassel, juste une baby-foot pourrée. Les gens, ils n'ont pas de promenade, ils ont 20 minutes. C'est comme ils veulent les policiers, ils ouvrent la promenade, ils veulent pas. C'est comme ils veulent pas, en fait. Et il y a la promenade de l'après-midi, on n'a jamais eu. On n'a jamais eu une promenade l'après-midi.
C'est vraiment l'arbitraire en fonction de ce que les policiers ont envie de faire. Quoi.
Exactement.
Il n'y a pas de règles fixes tous les jours.
Non, c'est comme ils veulent. Il y a certains policiers qui étaient trop violents avec nous. Même, on n'arrive même pas à prendre notre médicament. En centre de rétention Wassel, on a vu un truc. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça dans ma vue. Moi, j'ai jamais vu un policier qui donne tes médicaments. Mm-hmm. Ça, c'est normalement, c'est le médecin qui te donne ça ou l'infirmière. Ça, c'est logique. Mais au centre de rétention de Wassel, c'est les policiers qui donnent tes médicaments. Mm-hmm. Soit il faut que tu passes par eux. Moi, par exemple, moi, je passe par eux parce que pour l'éviter. Pour éviter leurs provocations, leurs insultes, parce que moi j'ai fait 77 jours, mes derniers jours là-bas, j'ai fait que stresser, j'ai fait Même moi, j'étais remarqué dans le centre. Parce qu'en fait, moi, j'ai un mec comme les autres, j'ai un humain, quoi. Normalement, ils ne nous traitent pas comme ça. Même les députés européens, quand ils sont venus, ils ont fait tout. Ils ont nettoyé les chambres, ils ont fait ça, ils ont fait ci, comme ça, et il ne s'est passé rien.
Et ils ont transféré une personne qui avait été tabassée, qui était couverte de bleu, la veille de l'arrivée du député. Cette personne a été transférée au centre de rétention
exactement,
de Rennes.
Exactement, c'était le matin, c'est pas la veille, c'était le matin. À 6h du matin, ils étaient transférés vers le centre de rétention de Rennes. Et le député européen, il a venu à midi. Mmh. Bah, c'est un jeu, comme on dit, c'était malin en fait. Même l'autre, il y avait un autre retenu qui était tout bleu, ils lui ont mis un casque, ils l'ont mis bien, tu vas prendre l'air dehors. Dès que le député européen il finit leur travail, et il va voir qu'est-ce qui se passe dans le centre. Et du coup là, de ce jour-là, moi j'ai parlé avec le député, j'ai parlé même avec les journalistes qui sont rentrés dans le centre. Je dis c'est insupportable la vie ici. On n'arrive pas à résister. Il y a pas des endroits, il y a rien en fait. Juste il y a un couloir. T'as t'es prisonnier entre ta chambre et la salle de la télé. Et la salle de la télé, tu peux pas rester dedans. Il y a dizaines de personnes. C'est une vie, en fait, on s'en rétention de Oisel, moi, je trouve, il faut que le fermer, en fait, et c'est pas un centre, il y a deux, trois chambres, il y a beaucoup de monde, et la police, en fait, ils ont la haine contre les retenus, ils n'arrivent pas à résister, il y a toujours des tensions entre les deux, et ça commence, tout ça commence le matin, dès que le matin, tu te réveilles, tu vas prendre ton petit déjeuner, Ça commence les provocations, ça commence les insultes, ça commence tout ça. Bah, si tu es arrivé à réussir à faire pas ton isolement, le matin c'est bon, tu es bien. On parle comme ça entre nous. Il y a des gens, même dans le centre, ils ne prennent pas leur petit déjeuner à cause de cette provocation de la police. Mm-hmm. Moi, quand j'étais à l'isolement, j'ai fait l'isolement et j'ai commencé à taper la porte comme ça pour que le chef vienne me voir. Parce que le chef, c'est lui qui a décidé de me mettre à l'isolement. C'est une chef, j'ai gradé. Après, du jour au lendemain, j'ai vu cette chef-là et j'ai dit, madame, pourquoi vous avez mis à l'isolement, vous n'êtes pas venu me voir. Normalement, quand tu mets quelqu'un à l'isolement, tu viens le voir, tu te dis pourquoi tu es à l'isolement. Tu es à l'isolement, c'est pourquoi il y a le motif pour ça. Mm-hmm. Ben, il me dit non, toi tu mérites l'isolement tous les jours en fait. Il m'a dit comme ça, toi monsieur Nordin, l'isolement c'est normalement c'est pour toi. Parce que toi tu fais la merde tous les jours dans le centre, toi tu pars, tu... En fait j'étais visite dans le centre parce que moi j'ai organisé plusieurs fois la grève à la fin dans le centre. Et c'est pour ça, ils n'ont pas supporté ça. Ils ont dit qu'à chaque fois, c'est lui qui organise ça, c'est lui qui organise ça. Ils ont même écrit ça à la juge de la cour d'appel de tribunal administratif de Rouen. Même elle a vu tout ça. Même moi, j'écris plusieurs fois pour madame la juge. Et normalement l'humain il est respecté dans tous les cas. Là-bas, on n'a pas vu ça. Mmh.
Du coup, ça, c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est que non seulement à Oisel, mais de manière générale dans les centres de rétention, l'isolement, il est utilisé pour tout un tas de raisons, en fait, et en particulier, comme tu viens de le dire, pour réprimer les personnes qui essaieraient de s'organiser avec les autres retenus pour des grèves de la faim ou autres, mais il est également utilisé comme moyen de répression dans le cas de tentatives de suicide. Quand il y a des tentatives de suicide, la seule réponse qui est apportée par l'administration à l'intérieur des centres, c'est de l'isolement, là, dans la plupart des cas. Et donc à Vincennes aussi, je lisais que dans des situations comme ça, juste après l'incendie et les grèves de la faim qu'il y a eu dans le centre, bah, ils prennent le moindre détail, c'est-à-dire que simplement tu oublies un papier quand tu débarrasses ta table au petit déjeuner ou au repas du midi.
Exactement.
Ils vont utiliser ça pour être violent, pour insulter et ensuite mettre à l'isolement, pousser les gens à bout aussi.
Ça m'a déjà arrivé moi ça et c'était comme ça, c'est là. Il te cherche le dernier prétexte dans tu laisses juste un petit bout de je sais pas de mouchoir dans ta table, il vient, il va t'insulter, vas-y sale blédard, pourquoi tu as laissé ça, ça c'est des mots que tu peux pas laisser porter en fait. L'humain il peut pas supporter de ce genre de truc. Toi même tu vas péter un plomb, tu vas te parler comme ça, pourquoi tu me parles comme ça chef. Moi j'ai jamais vu un professionnel qui a une tenue professionnelle, il parle comme ça aux gens. Moi, il y a un gradé, il m'a dit, monsieur Nordine, toi, je vais te dire un truc. Je dis, c'est quoi, monsieur? Il m'a dit, nous, les policiers, on a le droit de vous insulter. Mais par contre, vous n'avez pas le droit. Mais je dis, c'est passé où, ça? Mm-hmm. Ah, c'est, on est en France, il y a le droit de l'homme, il y a tout ça. Mais on ne parle pas, on est sans papier, on est sans papier. Mais à la base, on est des humains. On est pas là... Parce qu'on est en situation régulière en France. On n'a pas fait des trucs bizarres. Il y a des gens, c'est vrai, il y a des gens qui viennent de prison, il y a des gens qui, je ne sais pas, ils pètent les plans dans tous les cas. Mais il y a des gens aussi, il y a des travailleurs, il y a des diplômés, il y a des, tout ça dans ce centre.
Puis de manière générale, il me semble complètement effarant. Déjà, de manière générale, la prison, ça me semble effarant. Mais en particulier, de mettre des gens, les enfermer uniquement sur une question administrative d'avoir ou pas les bons papiers, il n'y a aucune manière pour moi qui pourrait justifier l'enfermement de personnes sur ce prétexte. Et je dirais la même chose pour la prison, même si ça semble moins évident et moins partagé comme opinion. Il y a aussi deux choses sur lesquelles je voulais parler. Donc tu as dit, c'est les flics qui nous donnent les médicaments. Et ça, il y a aussi sur le nombre de médicaments qu'ils donnent. On a quand même eu des témoignages absolument sidérants de personnes qui disaient qu'on leur donnait 5 tramadol d'un coup, alors que le maximum pour une journée entière, normalement, c'est 3 dans la journée. Il y a comme ça un bourrage de médocs par des policiers qui, en plus, connaissent pas les risques. Ou alors, ouais, s'ils les connaissent, ils mettent volontairement les gens en danger en leur donnant des surdoses de médicaments qui les assomment et du coup en font, j'ai envie de dire, des gens très faciles à garder, quoi.
Ouais, voilà. Parce que c'est ils voient que le retenu il est violent, ils vont chercher des médicaments, des médicaments que moi je les connais, parce que je connais les gens qui prennent ces médicaments là. C'est des médicaments lourds pour dormir 2 jours, même tu peux dormir 2 jours comme ça. C'est les policiers qui donnent ça, et ils savent même pas c'est quoi ça, c'est pas leur métier, c'est pas leur truc, mais ils font ça. Ils donnent des médicaments, du tramadol, du valium, tout ça, c'est des médicaments, c'est le médecin normalement qui donne ça, c'est pas les policiers.
Mm-hmm.
C'est le policier, il met les... Alors, à 22h, il commence à appeler médicaments, les gens, ils viennent. Et après, les gens commencent à prendre des médicaments. C'est le policier dans ça, c'est ça, je l'ai vu avec mes yeux. Ils mettent les médicaments, tu vois, tu mets ta main comme ça, il va te mettre des médicaments, tes valium, tout ça. Mais j'ai parlé avec un chef, j'ai dit, chef, c'est où? C'est la première fois que je vois ça, moi. C'est la première fois que je vois un policier donner des médicaments aux gens, aux retenus, c'est ça. Après, ce qu'ils disent, c'est des procédures, nous on suit les règlements, nous on est juste des fonctionnaires ici. Après, moi je trouve que les groupes de nuit, on n'a jamais eu de problème avec les groupes de nuit, parce qu'eux ils ne cherchent pas de problème, ils sont tranquilles, ils savent que les gens ils dorment la nuit, voilà. Mais par contre, les groupes de la journée, il y a même 3 ou 4 policiers. Que je l'ai visé moi aussi, parce que même j'ai passé et ils m'ont montré leurs photos, parce qu'ils ont cramé. C'est bon, ils ont cramé par leur violence, leur outrage aux gens, parce que c'est pas moi, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Tout le monde parle de ces policiers-là.
Mmh.
Et je crois maintenant ils ont leurs photos, ils ont déposé plainte contre eux. Parce que même l'autre qui l'a.
Tu veux dire des prisonniers à l'intérieur du centre qui ont porté plainte contre les policiers?
Ah ouais. Ouais, ils ont prêté pas
plainte. Oui, c'est vrai que là, il y a deux retenus, il me semble, qui ont porté plainte contre des policiers.
Il y en a deux, il y en a un qui n'a pas gagné cette affaire-là, parce qu'il a pris 3 mois prisonnement ferme à cause de ce policier.
Parce que le policier a porté plainte aussi contre lui.
Voilà, parce que c'était les deux policiers, ils ont parlé pareil. Et le retenu, il a vécu un témoin, c'était l'infirmière de l'hôpital.
Mmh.
Et là, il est libéré, mais je crois qu'il a 3 mois de ferme à prison.
Parce que ça, on peut aussi le préciser, c'est qu'il y a eu quelques articles dans les journaux, notamment suite à la grève de la faim à Oissel. Mais ce qu'on peut souligner quand même, c'est que jamais il n'est fait mention des communiqués qui ont été écrits par les prisonniers du centre de rétention dans les articles de presse. On ne va citer que la parole ou des policiers,
exactement,
ou du député, ou de France Terre d'Asile, mais on ne va jamais aller s'intéresser à ce que les prisonniers eux-mêmes peuvent dire. On donne toujours que la parole au côté administration de la prison, jamais aux personnes qui sont à l'intérieur, quoi.
En fait, ils te laissent pas parler avec les journalistes. Si ils savent que tu es quelqu'un qui parle trop, qu'ils disent là, qu'est-ce qui se passe dans le centre, ils vont te mettre quelque chose. Et soit ils te laissent sortir et ils jouent avec toi, en fait. Mm-hmm. Comme ils ont fait en retenue, ils ont dit, viens, tu vas prendre l'air. Et lui, il est tout bleu de partout, le visage comme ça, il était pas. Tu même pas le regard dans son visage, il était incroyable. Et après. Ils ont dit, viens, tu vas prendre l'air, tu vas marcher un peu avec nous, tu vas fumer. Comme je t'ai raconté tout à l'heure, pour juste les députés européens, ils ne voient pas ça. Même les journalistes, ils ne voient pas ça.
Peut-être une autre chose qui me semble importante de dire, c'est que cet usage des médicaments, il est aussi beaucoup fait avant les expulsions des personnes, et notamment les vols cachés, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas informées dans les centres de rétention, dans la plupart des cas, elles ne sont pas informées qu'elles vont être envoyées dans tel ou tel pays, elles ne savent pas le jour, elles ne savent pas l'heure, elles ne savent pas quand. Donc ça, c'est aussi une angoisse terrible au quotidien, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va venir nous chercher, d'autant que ça souvent la pratique des policiers, donc c'est la veille de mettre des médicaments, mais alors là, carrément caché dans la nourriture, dans l'assiette, pour droguer la personne sans qu'elle s'en rende compte et que le lendemain, elle soit facilement conduite, escortable à l'avion sans résistance. Et en plus, quand ils appellent les personnes, ils disent, tiens, toi, là, il y a quelqu'un qui te demande au parloir, ou tiens, toi, là, il y a le médecin qui voudrait te voir, ou telle association,
voilà,
ou le gradé.
Voilà, ouais, c'est ça,
mais jamais ils disent...
Il t'appelle avec le parloir, il dit, monsieur, vous avez l'infirmerie. Dès que tu rentres, il tombe tout sur tu vas, et même comme vous avez dit, ils mettent des médicaments comme ça, tu dors même la journée, tu sais même pas comment tu es à l'avion, tout ça. Et il y a plusieurs personnes, il y a un retenu que moi j'ai vu, ils ont appelé pour l'infirmerie, et dès qu'il a rentré de la porte de leur établissement, parce qu'on est deux, notre côté et leur côté, dès qu'il a rentré de côté, il commence à les tabasser jusqu'à l'infirmerie. Après l'infirmerie, il n'y a pas de caméra dans le bureau de l'infirmerie, et il a commencé à il arrive pas, même là, il dort avec moi, toutes les nuits, il commence à faire du cauchemar, il dit ouais, laissez-moi tranquille, eh, ouais, c'est bon.
Dans son sommeil, tu veux
dire,
il criait ça.
Ouais, dans son sommeil, il voit du cauchemar. Ouais, man, j'ai dit ça, moi, au début, je dis, il y a un retenu qui dort avec moi, il est stressé, il va mourir. Moi, c'est ça, c'est lui qui l'a fait transférer à Rennes, sans de
réponse. D'accord. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a certes, de temps à autre, hein, comme ça a été le cas notamment à Trieste, en Italie, assez récemment, où il y a un détenu qui a été battu à mort là, par la police. Mais il y a très régulièrement dans les centres de rétention des morts, en fait, et souvent c'est notamment suite à c'est des suicides. Et il faut quand même préciser aussi là-dessus que ces suicides, c'est purement le produit de la manière dont les personnes sont enfermées et traitées à l'intérieur des centres de rétention. C'est pas des personnes qui auraient des tempéraments suicidaires déjà avant, quand ils étaient dehors. C'est purement le produit d'intimidation, d'humiliation, de violence quotidienne, qui amène des personnes qui étaient rentrées finalement en allant pas mal moralement et qui se retrouvent à tenter, voire réussir de se suicider à l'intérieur des centres de rétention. Et ça, c'est tous les mois, il y a tout le temps des tentatives de suicide dans les centres de rétention, qui sont vraiment le résultat de la manière dont ces centres sont gérés par la police et dont les personnes sont traitées à l'intérieur, quoi. Je sais pas si, en tout cas, tu es libre à toi si tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette expérience, par rapport à un message que tu aimerais faire passer.
Moi, je voulais juste dire un mot pour les policiers qui travaillent de centre de rétention de Wassail, parce que moi, j'ai vu qui ça. Et moi, j'ai rentré un mec normal comme tout le monde dans le centre. Et à cause de est-ce que c'est passé avec moi, avec les policiers, moi je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas, je ne vois pas les policiers, ils vont m'insulter pour rien. Et en fait, et ça m'a changé, ça m'a, en fait. Et je veux juste dire, ça ne sert à rien d'être violent avec les gens. Il y a l'administratif qui travaille, et vous travaillez dans le centre. Vous êtes là pour protéger, surveiller les retenus. Quel que soit le retenu, vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour les insulter, pour je ne sais pas. J'ai vu une chose dans le centre. Une fois, il y a un retenu, il avait un vol, c'est son deuxième vol. Et ils ont vu rentrer dans sa chambre. Et il a dit, non, monsieur, je pars pas, moi, je rentre pas à mon pays. Il a dit, tu rentres à ton pays. Non, il a dit, non, je rentre pas. Il a pris le monsieur, il a tenu comme ça. Il a dit, tu vas rentrer à ton pays. Moi, je suis un flic, toi, tu es un étranger. Toi, tu parles pas comme ça. Moi, je parle comme je veux et toi, tu parles pas comme ça. Et c'est des mots, en fait, tu les entends pas, en fait. C'est la première fois que tu le vois, ce genre de phrases, je sais pas comment dire ça. Ben, je peux dire, même aux retenus qu'ils ont là-bas, essayer de l'éviter de la police, essayer de l'éviter, essayer de pas parler trop avec eux, essayer de même si vous avez du médicament à prendre le matin, à midi, essayez de les prendre pas après au coup le soir. Et comme ça, vous avez le visé et l'évité, vous parlez pas trop avec.
Gardez l'esprit clair.
Gardez
aussi.
L'esprit aussi. Et il y a autre chose. Dites tout ça, qu'est-ce qui se passe au centre, dites ça au juge, parce que ça joue pour vous. Ça joue très bien pour vous. Même parce que moi, j'ai raconté tout ce qui se passe dans le centre trois fois jusqu'à ma quatrième prolongation. Et ça jouait pour moi. Et force à vous, les gars.
Mmh, ouais, force et courage aux personnes dans les centres de rétention. Et juste pour, si vous désirez avoir plus d'informations, je donne deux pistes de lecture ou d'écoute. Il y a un site qui s'appelle abalekra.noblog.org dans lequel sont relayés tous les communiqués qui sont écrits par des prisonniers dans les centres de rétention. Notamment, vous trouverez tous les communiqués qui ont été écrits par les prisonniers de Wassel. Également, une chronique concernant l'incendie et ses conséquences, la répression qui a suivi du centre de rétention de Vincennes. Et puis j'invite également à l'écoute de l'émission de L'Envolée sur le site l'envolée.net qui, vendredi dernier par exemple, avait un coup de téléphone de personnes qui sont au centre de rétention de Vincennes. La semaine d'avant, c'était des personnes de Vincennes et de Wassel qui témoignaient par téléphone. Et donc, L'Envolée fait un super travail radiophonique là par des interviews en direct par téléphone avec des personnes en centre de rétention. Donc, l'envolée.net. Pour ce qui est, voilà, si vous désirez un peu, apprendre davantage sur ce qui se passe dans les centres de rétention et sur les luttes qu'il y a à l'intérieur. Ah, un petit problème.
Tu m'avais rien commandé.
Musicale. Non, c'est vrai, il n'y avait pas de demande musicale, mais ça y est. Thank you.
Bon, voilà, alors j'ai diffusé Ennio Morricone, Suspicion, vu que c'était sur, c'est des histoires de suspicion, hein, des gens qui sont suspects simplement parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, ils sont fermés.
Tout à fait. Et même des fois, ils ont les bons papiers, hein, mais on les enferme de manière préventive parce que leurs papiers sont bientôt terminés et on suppose qu'ils vont partir et qu'ils ne vont pas se présenter en préfecture au moment où leurs papiers devront être renouvelés. Mm-hmm. Donc ça, c'est beaucoup pratiqué pour les Dublinais en fin de procédure qui sont enfermés de manière préventive, administrative et préventive. Mm-hmm. Ce qui est quand même une double aberration complète, quoi.
Christophe, tu
voulais... Oui, je voulais juste faire une remarque pour apporter un peu de lumière. Il se trouve qu'hier, nous avons... avant-hier, pardon. Nous avons passé une soirée qui avait du sens avec des amis, des camarades de longue date. Et il y avait une de nos amies qui est travailleur social dans les prisons. J'ai bien dit dans les prisons, pas dans les centres de rétention. Mm-hmm. Voilà, je ne citerai pas son prénom pour des raisons de discrétion. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que...
en milieu ouvert.
En milieu ouvert, très bien. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que, comme je la connais depuis de nombreuses années, je voulais quand même dire que partout, dans la justice, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans tout le dispositif administratif français, il y a aussi des êtres humains, puisque nous en connaissons, qui font du bon travail, ou des associations, et qui s'efforcent d'apporter de l'humanité. Voilà, je souhaitais dire ceci pour ne pas être manichéen. Je sais bien que d'aucuns qui pourraient m'écouter ou d'autres ont une tendance à totalement tout noircir. Ce que je viens de dire n'est absolument pas une contradiction par rapport à ce qui a précédé, ça n'a strictement rien à voir. Je voulais simplement rappeler aussi que...
Ce sont souvent d'ailleurs des gens en souffrance, comme nous le disait cette amie elle-même. Elle disait que, vu le fonctionnement de la machine judiciaire administrative pénitentiaire, elle trouvait douloureux de faire son travail parce que tout le temps mise en porte-à-faux vis-à-vis de ses propres convictions et de sa manière dont elle pensait devoir exercer correctement son métier. Quoi.
Oui, enfin, même ce commentaire, on n'est pas toujours obligé d'être dans le noir, mais douloureux. Enfin, moi, je ne sais pas, j'étais là, j'en connais d'autres, etc. On peut aussi, dans les prisons, dans les hôpitaux, où que ce soit, apporter de l'humanité et être fier d'en apporter. Voilà, je sais que cela existe et que ça mérite d'être rappelé, puisque nous en connaissons. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà.
D'ailleurs, Nordine en parlait à l'instant, hors antenne, à propos de ces personnes qui viennent faire des visites 3 fois par semaine, prendre des nouvelles très régulièrement par téléphone, et qui donnent, tu disais, vous donnez beaucoup de force, quoi.
Ouais, ces gens-là, je les remercie beaucoup et ils viennent nous soutenir dans le centre. C'est 3 fois par semaine, 2 fois. C'est minimum 1 fois par semaine. Ils viennent, ils donnent des idées, comment on marche avec les policiers, comment on fait ça, comment parler avec les juges, les avocats. Même eux, c'est eux qui font les avocats, ils font tout. Franchement, c'est une raison qui travaille super bien. Même il y a Madame Fatima Zemmeri que je le remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle m'a trop soutenu. Et même elle a soutenu tout le monde dans le centre. Et voilà, même elle a aidé les gens moralement. Même elle a ramené toujours des vêtements pour les gens, elle ramène des téléphones, des petits téléphones pour les gens qu'ils n'ont pas. Elle ramène beaucoup de choses dans le centre. Il y a trois ou quatre personnes qui viennent chaque semaine, régulièrement. Et moi, je trouve...
En parloir.
Ouais, en parloir. Moi, je trouve ça, c'est une bonne chose. Pour les retenues. Mm-hmm. Parce qu'ils ont tout le temps avec... Même moi, par rapport à moi, j'habite à Paris, je suis à Wassel, c'est trop loin. Je suis à mon chopé à Lille. J'étais trop loin de les deux côtés. Grâce à eux, j'étais bien. Et on parle au téléphone, même ils parlent au parloir. C'était comme ça dans ce temps.
Et il faut savoir qu'il suffit d'avoir le nom et le prénom d'une personne dans un centre de rétention voilà. Pour aller lui rendre visite. C'est moins compliqué qu'en prison où il faut un numéro d'écrou, etc.
Voilà, voilà.
En centre de rétention, il suffit d'avoir nom et prénom d'une personne.
Juste le nom et prénom de la personne.
Bah voilà, merci Nordine. C'est ce que je souhaitais surligner quand j'ai commencé en disant apporter un peu de lumière. Je voulais dire qu'à l'intérieur et à l'extérieur venant visiter et aider... Il y a des êtres humains qui s'efforcent et s'efforceront toujours d'apporter de l'humanité. Voilà, je souhaitais le dire parce que c'est la stricte vérité. Voilà.
Moi, j'ai concocté, entre guillemets, dans la machine judiciaire, étant donné que j'ai rédigé un compte-rendu d'une après-midi au tribunal de grande instance de Lille. Le monsieur loyal du tribunal, l'huissier, annonce « Affaire numéro 1, monsieur Machin assisté de maître Truc. » Au cours de cette audience, lorsque le prévenu dira au juge qui lui présente une déclaration signée « C'est pas moi qui ai signé ça », le juge répondra « Oh, vous savez, les signatures sont pas toujours identiques les unes aux autres. On va considérer que c'est vous. » Puis il exprimera sa hiérarchisation des diplômes. Un bac L, c'est bien ça, la philo. Puis ce sera un procès groupé pour infraction constatée à la législation sur les stupéfiants. Soit l'usage, la revente, le trafic et la consommation de stupéfiants. Cannabis, cocaïne, balance, nourrice, somme d'argent. Des jeunes hommes présents. Débat pour savoir si ce serait pas plutôt au tribunal pour enfants de traiter l'affaire, vu que 2 prévenus sur 5 étaient mineurs au moment des faits reprochés. Non, trancheront finalement les juges. 490 euros en liquide retrouvés chez Monsieur Schwing, c'est énorme, dira le juge. Beaucoup n'ont pas de ça pour vivre, hein, dit celui qui doit toucher 10 fois plus mensuellement. Et vu qu'il aimera pas que le gars mâche son chewing-gum et l'appelle pas Monsieur le Président, il lâchera. On vit pas dans le même monde, hein. On vit pas dans le même monde, hein. Le juge président ajoute que d'ailleurs faut pas garder d'argent chez soi. Faut le faire fructifier, faire des petits, préconisera-t-il en bon bourgeois capitaliste. Puis il regrette le temps où Fâche-Tuménil était un coin charmant, pas envahi de casquettes en arrière. Cette jeunesse, quel désœuvrement! Quel désœuvrement! Tous les gens du quartier se plaignent. Le petit centre commercial ne supporte plus la situation, ajoute-t-il en toute sobriété. Il se désole que ce centre commercial soit devenu un lieu où les gens viennent se fournir. Les gens viennent en voiture, ils achètent, et ça fait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais c'est pas le projet d'un centre commercial. Bon, économie légale versus économie souterraine. Le juge Nepape poursuit. On a pourtant arrêté beaucoup de gens il n'y a pas longtemps. Il y a eu une opération de police pour mettre fin au trafic. Ils ont pas mis fin au trafic. Ils ont mis fin à des personnes, réagira l'accusé. Quand j'entends un juge dire « Vous avez un travail, vous vivez en couple, vous attendez un enfant », c'est très bien tout ça. Je sous-entends, pas de travail, pas en couple, pas d'attente d'enfant, c'est très mal tout ça. Il juge autant des faits répréhensibles par la loi que des modes de vie. Quelle puissance! Quel mental faut-il donc avoir pour se permettre cela? L'horloge de la salle d'audience est bloquée, elle aussi. 15h45. Le juge président compare les jeunes à des fauves, sans que les robes en noir qui l'entourent ne scient. Puis il tourne des feuilles en soufflant. 13 mentions, pff, TIG, sursis, pff, et puis il agrafe le tout. Lors de mes après-midi dans l'une des 4 salles du premier étage du TGI de Lille, j'ai constaté que près de la moitié des audiences qui y sont tenues concernent des infractions constatées à la législation sur les stupéfiants. Et que ceux qui comparaissent pour ça ont rarement au-dessus de 25 ans. Un avocat, reprenant le parallèle animalier, dira « Quand on passe l'épuisette, on ne ramasse que les petits poissons. » L'avocat de la défense dira « Vous pensez que quelqu'un que vous accusez d'être à la tête d'un trafic de cocaïne n'aura que 490 euros en liquide chez lui ?» Ça parle de grammes, de téléphones portables, de voitures, de nourrices, de balances, de précisions, de ramifications, d'aveux, C'est pas moi, c'est mon frère, dira texto un accusé. Quand on en est là. Un homme actuellement emprisonné pour outrage en réunion n'est pas présent pour être jugé. Il n'a pas été informé de la tenue de son procès ce jour. Autre absente, une dame avec des troubles psychologiques poursuivie par le parquet. Le président se délectera de lire les dépositions, en changeant d'accent selon les dépositaires, et les robes en noir, assis à son niveau, seront bon public. Ah, quand papa raconte une histoire. Il se marre de la misère sociale, de la détresse humaine. Vous êtes gilet jaune, vous ? Sera la première question posée à la personne accusée d'avoir tagué les vitrines de gros cul du capitalisme, caisse d'épargne, Apple et McDonald's, lors d'une manif il y a un an. C'est un flic en civil, infiltré dans le cortège, qui a pris des photos tout au long du parcours, puis qui a indiqué la personne à la BAC pour une arrestation brutale en fin de parcours, qui fait que la personne est là. Un accusateur anonyme à qui la caisse d'épargne remettra les vidéos de ses propres caméras quelques heures plus tard. Si vous, vous pouvez prendre le temps de lire l'article 15.4 du Code de procédure pénale où on apprend qu'un agent dans l'exercice de ses fonctions peut garder l'anonymat lors de sa déposition. La personne accusée fera une seule déclaration au tribunal. Je souhaite exercer mon droit au silence. Une seule aussi tout le temps de sa garde à vue, puis lors de la convocation ultérieure au comico. Je n'ai rien à déclarer. Après avoir dit « La partie civile se fie à ce que disent les policiers », l'avocat de la Caisse d'épargne Hauts-de-France réclame, devinez quoi, du pognon. Frais de nettoyage, frais de justice, préjudice d'image, parce que quand même, il dira « Je défends un établissement bancaire, propre sur lui ». L'avocat de la défense, c'était pour le temps des rires, si vous êtes... Bref. L'avocat de la défense demande la nullité de la procédure en énumérant multiples raisons. Le procureur de la République discute articles de loi. Les stagiaires et les robes noires attendent la fin de leur journée puisqu'on est en début de soirée. Et puis finalement, la greffière annonce une date de délibéré. N'hésitez pas à aller vous asseoir sur les bancs d'une des quatre salles du tribunal de grande instance de Lille entre 14h et 18h du lundi au vendredi. Vous apprendrez à chaque fois plus comment fonctionne la police, comment travaille la police et la justice. Et je pense qu'il est important que les juges et complices se sentent observés afin qu'ils n'osent pas trop user de leur mépris de classe, de corps en robe et de position. Du haut de leur cul rehaussé à hauteur de buste des prévenus. Vous êtes toujours avec nous, normalement, dans les points sur les i.bar sur Radio Campus Lille 106.6 FM ou www.campuslille.com.
Oui, alors redoutable tâche que non pas de contredire mes camarades, mais d'essayer, comme tout à l'heure, de dresser des lignes parallèles. Donc oui, il se trouve que j'étais aussi au tribunal ce jour-là, donc je peux témoigner, non pas donner un autre éclairage, dire ceci, c'est que dans la comédie humaine, les rôles sont un peu partout partagés, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, le balai, ça me fera une transition avec ce que je souhaitais dire, des avocats glissants, se connaissant, etc., etc., et faisant leur numéro avec des trémolos dans la voix et des incantations pour montrer, surjouer l'indignation, comme j'étais présent, j'ai trouvé cela un peu ennuyeux. D'ailleurs, je pouvais lire Le Monde avec ma tablette. Donc, en effet, c'est un théâtre, mais enfin, dans le théâtre, il n'y a pas que les magistrats du siège, c'est-à-dire le juge et ses assesseurs, l'huissier, etc., etc. Il faut aussi rajouter, bien sûr, le dispositif policier pour le contrôle à l'entrée. Il faut rajouter les fonctionnaires à l'intérieur. Il faut rajouter les avocats, etc., etc., etc. Donc, tout cela, c'est un théâtre. Mais je tiens aussi à préciser, comme... quand même cela doit être dit, c'est qu'il y a aussi au tribunal toutes sortes d'affaires qui sont jugées, de quelque ordre que cela soit, et qu'il n'y a pas que d'un côté les très méchants juges bourgeois capitalistes qui seraient complètement tarés, et de l'autre côté que des victimes innocentes du peuple qui seraient totalement, je dirais, défendues par des avocats extraordinairement intelligents, brillants et avec un bouclier. Non, voilà, les choses sont un peu plus complexes. Quant à maintenant...
Chacun est libre de faire ses propres comptes rendus. Hein.
Tout à fait, moi, tu as fait ton dispositif, moi je tiens simplement à rajouter ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le théâtre, eh bien il y a aussi le ballet des avocats qui surjoue, mais moi ce que je voulais dire ceci, c'est que sur le commentaire de ce temps, je suis fasciné quand j'assiste en effet à une audience, donc alors il y a quand même les fonctionnaires qui sont payés, l'avocat qui est payé, du temps, on écoute, etc., pour des affaires comme cela, c'est-à-dire des histoires de taxes sur ceci ou sur cela, sur des banques, des caisses d'épargne, etc. Je tiens à préciser aussi que j'ai moi-même un compte à la caisse d'épargne. Il y a 700 euros, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais donc dépendant d'un gros cul du capitalisme. Enfin voilà, c'est un compte qui m'a été ouvert quand j'étais petit. Voilà, donc j'ai 700 euros à la caisse d'épargne. J'en demande pardon à mes camarades. Voilà.
Mais tu donnes le numéro pour un virement ?
Non, mais tout ça pour dire que je voulais rappeler ceci, c'est que j'avais déjà dit que quand on crie au loup, ça ne veut plus rien dire. Je vais faire court. Pour toutes celles et ceux qui continuent de dire et de taper dans la caisse pour expliquer que nous sommes déjà en ce moment dans une situation pré-fasciste, fasciste, d'une violence extraordinaire dans la société française, etc., 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 comme si ça ne m'avait pas échappé qu'il y a de la violence, de la vulgarité et de l'injustice, je tiens à rappeler ceci, que parfois, dans certains moments de l'histoire, c'est un peu plus expéditif. C'est-à-dire que dans la nuit des longs couteaux, en 1933, il y a 25 000 personnes qui ont été arrêtées, torturées et liquidées en une journée sous le dispositif d'Hitler. C'est sûr que là, il ne s'agissait pas de passer des heures avec un juge, des assesseurs, un avocat et ceci et cela pour des dégradations de la banque, de la Bundesbank. Voilà, je tiens simplement à préciser ceci. C'est que parfois, l'histoire s'accélère et que pour le moment... la planète est en ronde, il y a quand même un certain nombre de problèmes délicats. Il y a ceux qui ont le droit de jouer aux billes, voilà, c'est-à-dire que si je joue aux billes, et puis d'un seul coup, je suis très malheureux, et puis ça me permet de dire quelque chose à mes camarades, ça permet aussi de faire peur à la grand-mère, pourquoi pas, on peut aussi l'avoir à l'EHPAD, et puis ça permet aussi de mobiliser un avocat, parce que franchement, il a que ça à faire, et puis on fait ceci, et puis on fait cela, enfin, c'est du temps, pourquoi pas. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas le temps de jouer aux billes, mais en tout cas, je tiens à rappeler ceci, et je me suis permis de le dire, c'est que tant que, en effet, la croisière s'amuse, on a un juge, des assesseurs, des avocats, etc., et qu'il s'agit, et on prend du temps, et on est convoqué, etc., pour ce genre de dispositif, pourquoi pas ? C'est une chose de dénoncer les violences, je suis parfaitement d'accord, les vulgarités, etc., et là, je serai toujours solidaire. C'en est une autre d'être capable de dire, comme je le dis, c'est qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'à certains moments, l'histoire s'accélère, et là, d'un seul coup, en une journée, on a 25 000 êtres humains qui sont arrêtés, torturés, etc., comme s'il n'aurait rien été. Donc là, ce n'est pas le même dispositif, parce que quand, en effet, on se permet de qualifier certains dispositifs comme étant fascistes, machin, etc., bah, le jour où ça viendra, je ne sais pas quel adjectif il faudra dire. Tout ça pour dire que je voulais parler des avocats, en effet, et de... Non pas l'affaire Griveaux, parce que j'ai toujours pensé que faire de la politique, c'était pas en dessous de la ceinture, mais de la Tartuffe. Tartuffe, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. Bon, alors, pour que les choses soient claires, il y a en ce moment un mouvement de grève des avocats. Mais comme l'a dit, et on fait certaines déclarations de juges et de gens qui sont tout à fait insoupçonnables de faire du mauvais travail, qui sont tout à fait républicains et très corrects, ils sont en train d'expliquer que ceux qui en souffrent le plus pour le moment, ce sont les justiciables qui ont peu de moyens, qui sont pauvres, etc., etc., à cause du dispositif de l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que il y a une grève des avocats. Je ne rentre pas dans le détail. Et je tiens à préciser que dans les avocats, il y a aussi des avocats d'affaires, des avocats dans de grands cabinets fortunés, etc., etc. Mais que pour le moment, dans le dispositif de la grève des avocats, ce sont les plus pauvres qui en pâtissent.
Je crois que c'est parce que ce n'est pas non plus les avocats des grands cabinets d'affaires en fait, qui font grève.
Absolument. Mais il se trouve que dans ce dispositif de la grève, ce sont les plus pauvres qui en pâtissent. Voilà,
en fait,
c'est ça que
oui,
je voulais dire.
Parce que,
voilà, M. Balkany, lui...
En tout cas, beaucoup d'avocats disent qu'ils en pâtissent plus tard si leur système passe, etc., mais par rapport à un relevé de taux d'imposition qui passe de 18 à 30%, etc., et que donc ils devront choisir les affaires, il y aura moins de priorité à l'aide juridictionnelle.
Oui, c'est vrai.
Enfin, moi, c'est ce que j'avais entendu comme argument de leur part. Quoi.
C'est vrai. En tout cas, en ce moment, on a aussi un balai d'avocats qui se succèdent aux radios, aux antennes. On a M. Branco qui est avocat, M. Zarka qui est l'avocat de M. Griveaux et d'autres qui font des commentaires. Alors là, c'est un autre dispositif. Eux, ils ne sont pas en grève. Ils font la tournée des popotes, etc., pour expliquer ceci ou cela. Je dirais simplement ceci, c'est que les réseaux et l'Internet, c'est très bien. Pour informer, c'est très bien. Pour raconter n'importe quoi, c'est autre chose. Pour le moment, on n'a pas trop de paravent. En revanche, le dispositif compromat, c'est-à-dire attaquer l'adversaire en dessous de la ceinture, où il y a déjà eu des antécédents en Russie, tout le monde peut regarder les dossiers, procureur général qui a été en sextape avec des prostituées, dont une mineure, etc., etc., vient d'être importé en France. Alors, je ne sais pas si on peut parler de l'américanisation de la vie politique française. C'est un autre dispositif. Voilà. En tout cas, il est parfaitement possible de faire une campagne et de se présenter à des élections sans s'abaisser, attaquer en dessous de la ceinture. Ça me semble être un rappel. Je l'avais déjà fait. Mais enfin, voilà, je regrette que M. Branco, l'avocat, conseille de M. Pietr Pawlecki, l'aurait en quelque sorte donné quelques éléments pour le dispositif juridique, mais il aurait pu préciser, visiblement il ne l'a pas fait dans toutes ses interviews, que peut-être que c'était pas quelque chose qu'il fallait faire pour des raisons d'éthique. Enfin, ça, c'est un dispositif qui lui a échappé. Enfin, je ne suis pas son conseil. Voilà. Je le regrette. C'est tout.
En t'écoutant, je pensais simplement une chose, c'est que quand le fait de perdre du temps à juger en correctionnel, en effet, trois tacs sur un mur, c'est pas tant le fait de la personne...
Ah, j'ai pas dit que c'était une perte de temps. Pourquoi pas? Je n'ai pas dit ça.
Je peux terminer, juste? C'est pas le fait de quelqu'un qui a posé des tacs, c'est que c'est dingue de faire comparer quelqu'un en correctionnel avec une présidence composée de trois juges, en effet, un greffier, je ne sais pas combien de personnel, pour au final des trucs qui, le soir même de leur inscription, avaient en plus été effacés. Donc de juger ça en correctionnel, c'est simplement sidérant, et ça montre aussi cette espèce de banalisation de la judiciarisation à outrance d'actes qui sont en fait complètement anecdotiques et qui ne sont que l'espèce de reflet d'une société médiatique qui est capable de faire tout un sujet sur des chaînes d'infos en continu autour d'une poubelle qui brûle lors d'une manifestation. Donc une espèce d'injonction à l'instantanéité de la répression et à une espèce de démesure en termes de où on confond les actes commis et le symbole qu'on met derrière ces actes. C'est-à-dire que derrière le fait de simplement poser un tag sur une banque, on est en train quelque part de faire le procès en prédictif du fait que cette personne serait peut-être capable d'aller plus loin que le symbolique de ce geste pour dans des actes de violence. Et il y a tout ce truc de dangerosité qui a été introduit en 2005 dans la loi et qui fait qu'en fait on ne juge plus du tout des actes ou des faits, mais on est véritablement en train de juger non seulement des personnalités et des propensions à la récidive ou au vieil adage qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire que la justice n'est plus du tout sur des questions de faits, mais uniquement sur des questions, ou en tout cas plus uniquement sur des questions de fait, mais déborde très largement ça en rentrant dans la personnalité et la dangerosité des personnes interpellées. Et ça, c'est quand même assez sidérant, parce que c'est un grand écart et ça n'a absolument rien à voir avec ce que, en tout cas, on pourrait entendre dans le bon sens par le mot « justice ».
Il est l'heure de se dire au revoir pour cette édition. El Barrio Jazz.
Radio Campus
Merci.
Lille, 13h.